Donc, je vais essayer dans cette courte conférence de résumer certains des résultats qui se trouvent dans ce livre. Donc, de façon générale, donc dans ce livre, j'étudie l'évolution historique de la répartition des revenus des patrimoines depuis le 18e siècle dans plus de 20 pays. Et je voudrais tout de suite insister sur le fait que c'est vraiment un projet collectif. Enfin, le livre, il est, je n'engage que moi dans le schéma interprétatif historique que je propose dans ce livre, mais les données sur lesquelles je me fonde, je n'aurais jamais pu les rassembler tout seul. Donc j'avais écrit ce livre, Les hauts revenus en France au XXe siècle, en 2001. Donc là, la différence, c'est qu'il y a plus de 20 pays, et puis aussi qu'on passe, enfin, je suis passé, disons, de l'étude des revenus à l'étude des patrimoines. Alors les deux questions sont reliées, évidemment, puisque les patrimoines sont en partie l'accumulation d'épargne issue des revenus, mais... Bon, le patrimoine, c'est quelque chose de plus compliqué que le revenu, parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que l'épargne, il y a l'héritage, il y a les ressources naturelles qui ont été épargnées par personne, ça crée des tensions, disons, l'idée de justice dans la distribution rencontre des tensions encore plus fortes lorsqu'il s'agit de répartition du patrimoine que de répartition de revenus, et en plus, pour le chercheur, les patrimoines, on a eu la bonne idée de laisser des traces bien avant les revenus. Donc on peut étudier le 19e siècle, dans une certaine mesure le 18e siècle, qu'on ne peut pas faire pour les revenus, puisque... Mon livre de 2001 se fondait essentiellement sur les déclarations de revenus. En France, l'impôt sur le revenu est créé par la loi du 15 juillet 14, aux États-Unis en 1913. Donc il y a très peu de sources sur les revenus avant la Première Guerre mondiale. Alors que sur les patrimoines, on peut mettre les évolutions historiques dans une perspective plus longue, remonter au 19e siècle et dans une certaine mesure au 18e siècle. Et donc dans ce livre, je m'appuie sur des données qui ont été rassemblées à la fois sur les revenus et sur les patrimoines au cours des 15 dernières années. Avec Atkinson, Saez, Postel-Wiener, Rosenthal, Alvaredo, Zucman. Bon, je ne peux pas citer tout le monde, ils sont cités dans les remerciements du livre et dans les matériaux disponibles en ligne, mais j'insiste vraiment sur ce côté, ce projet très collectif qui a finalement donné naissance à ce livre. Donc, le livre est un peu long, je m'en excuse, je suis un peu lâché à un moment dans la rédaction et sans doute j'aurais mieux fait de mieux compter mes signes, mais bon, voilà, une fois que c'est écrit, c'est toujours difficile à réduire, et le livre comporte 4 parties, donc là, je vais pas chercher à tout présenter ici, évidemment, j'essaye de montrer dans le livre, de rendre justice autant que possible à chaque histoire nationale des inégalités, c'est-à-dire chaque pays a ses particularités, l'histoire de la répartition des revenus et des patrimoines est toujours une histoire... qui est au moins autant politique qu'économique, culturelle, sociale, qui met en jeu des représentations nationales sur les inégalités, qui ne sont pas les mêmes en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon, en Italie. Donc j'essaye, dans le livre, autant que je peux, de rendre justice à toutes ces particularités, et je vais pas pouvoir faire ça aujourd'hui. Donc ici, je vais me focaliser sur certains des principaux résultats, en particulier sur la question de la transformation de la nature du capital sur longue période. Tous les graphiques du livre sont disponibles en ligne, donc en particulier tous les graphiques que je vais présenter aujourd'hui sont disponibles en ligne. J'ai pas encore pu mettre le PDF du livre en ligne, mais quand le seuil arrêtera de me surveiller, je finirai bien par le mettre un jour. Mais pour l'instant, je n'ai pas le droit, donc le livre, malheureusement, il faut le payer. Mais les graphiques sont disponibles gratuitement. Alors, je vais essayer dans cette présentation de me focaliser sur 3 points principaux. Donc en passant, je ne sais pas, un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure sur chaque. C'est possible que les choses deviennent rapidement plus désorganisées, mais en principe, c'est ce à quoi je vais essayer de me tenir. Donc le premier point concerne ce que j'appelle ici le retour du capital dans le vieux monde, bon, en particulier l'Europe et aussi le Japon, où on verra qu'on observe sur longue période un retour à des ratios capital-revenus qui semblent revenir vers des très hauts niveaux, comparable à ceux qu'on observait jusqu'au 18e, 19e siècle. L'intuition fondamentale pour ce résultat, qui a des conséquences sur la structure sociale dans son ensemble, ça peut se résumer de la façon suivante. Disons, dans une société de croissance lente, les patrimoines issus du passé peuvent prendre naturellement une très grande importance. C'est-à-dire que si vous avez une très faible croissance économique et démographique, donc une population qui stagne, voire une population qui diminue dans certains pays européens ou au Japon, assez naturellement, la totalité de ce qui a été accumulé dans le passé peut être extrêmement important.
bon, le cas extrême d'une société qui est sur le point de disparaître, où tout le monde, voilà, on va, la population diminue d'un tiers à chaque génération, et hop, on s'apprête à disparaître. Bon, la dernière génération, évidemment, elle reçoit tout le patrimoine accumulé au cours de tous les siècles passés. Donc là, c'est vraiment, on a un ratio entre la totalité de ce qu'on possède en patrimoine et une année de revenus qui peut être considérable. Bon, c'est un cas extrême, mais ça permet de comprendre un peu les choses. Et à l'inverse, une société où on aurait, où chacun aurait 10 enfants et où on serait dans une croissance démographique inouïe, les patrimoines issus du passé n'ont pas beaucoup d'importance, parce que comme tout va être divisé par 10 à chaque génération, il faut mieux compter sur votre propre épargne. Donc pour résumer, pour réduire les inégalités, faites des enfants, mais en même temps, bon, comme c'est pas quelque chose comme ça qui se décide et puis qui éventuellement comporte d'autres désagréments, la logique là, simplement, c'est de dire, voilà, dans un monde de croissance très lente, avec une population stagnante, voire parfois diminuante, naturellement, les patrimoines issus du passé peuvent prendre une ampleur qui ressemble finalement un peu au monde patrimonial, notamment en France, du 19e siècle, du 18e siècle, d'ailleurs en partie pour les mêmes raisons. Donc ça, c'est le premier point qui concerne vraiment la masse du capital et non pas sa répartition. C'est-à-dire que le fait qu'on ait un retour d'une très grande masse de patrimoine relativement à une année de revenus de production, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. C'est-à-dire que à une époque, notamment en France et en Europe, où on nous parle beaucoup de dette publique, de dette privée, bon, le fait qu'on ait énormément de patrimoine, beaucoup plus que toutes nos dettes, c'est plutôt une bonne nouvelle, dans le fond. Et il faut mieux avoir plein de patrimoine que plein de dettes. Et donc, globalement, le fait que les pays riches, et en particulier les pays européens, soient riches, bon, c'est pas vraiment une surprise, mais puisqu'on nous parle beaucoup de... Mais quand on nous parle tellement de dettes actuellement qu'on finit parfois par oublier cette évidence. Donc ce sont les gouvernements des pays riches sont pauvres, mais les pays riches actuellement sont extrêmement riches, ou en tout cas ceux qui possèdent des patrimoines sont très riches. Et le fait qu'en masse, collectivement, on revienne à des très hauts niveaux de capitalisation du patrimoine est plutôt une bonne chose. Sauf que donc la concentration du capital, elle, peut poser problème. Et là, on verra, disons, pour résumer, la conclusion principale, c'est qu'un des déterminants, pas le seul, mais un des déterminants à long terme de la concentration du patrimoine est cet écart entre R et G, R-G, où R est le taux de rendement net d'impôt du capital, donc ce que rapporte en moyenne un patrimoine au cours d'une année, et G est le taux de croissance de l'économie. Et on verra que l'écart R-G ayant tendance à devenir de plus en plus élevé au cours des dernières décennies, et dans la mesure où il sera également très élevé au cours du 21e siècle, qui peut être lié à l'abaissement de la croissance dont on vient de parler à l'instant, mais aussi à la concurrence internationale croissante pour attirer les capitaux, ce qui augmente le rendement net d'impôt du capital, et notamment par la diminution des impôts, alors dans ce cas-là, l'inégalité patrimoniale, la concentration des patrimoines peut assez naturellement retrouver, voire dépasser des niveaux observés au XIXe siècle. On en est encore loin, mais c'est important d'essayer d'analyser sereinement ce type de mécanisme au regard de l'histoire. Et le dernier point concerne ce que j'appelle ici l'inégalité en Amérique. Alors, la structure des inégalités aux États-Unis a été historiquement assez différente de ce qu'on observe en Europe, avec en particulier... Bon, en Europe, on a une inégalité historiquement qui est très basée sur les patrimoines, l'inégalité des patrimoines. Aux États-Unis, les patrimoines issus du passé ont toujours eu historiquement moins d'importance qu'en Europe pour la raison que j'indiquais tout à l'heure, qui est quand vous avez un monde en croissance démographique soutenue, bon, le passé a moins d'importance. Donc les États-Unis ont 320 millions d'habitants aujourd'hui. On avait 3 millions au moment de la Révolution américaine. Donc forcément, le passé n'existe pas. Tous les patrimoines sont des patrimoines neufs ou presque, alors que la France en a 60 millions aujourd'hui. On avait presque 30 à l'époque de la Révolution française. Donc c'est presque le même pays. Enfin, il y a une croissance démographique, mais quand vous doublez sur deux siècles, c'est vraiment très lent. Hein. Donc c'est pratiquement les mêmes familles, les mêmes, pas tout à fait les mêmes immeubles quand même, mais bon, disons, vous avez une importance du patrimoine que vous n'avez pas aux États-Unis. Mais à l'inverse, aux États-Unis, on a un modèle d'inégalité qui va être beaucoup plus marqué qu'en Europe pour ce qui concerne l'inégalité des revenus du travail. Donc moins d'inégalité patrimoniale, mais plus d'explosion, notamment au niveau des très hauts revenus du travail. Et bon, la question qu'on peut se poser pour l'avenir, c'est finalement qu'est-ce qui est le mieux et est-ce qu'on risque pas de combiner en fait une très forte inégalité patrimoniale avec une très forte inégalité de revenus du travail pour l'avenir, ce qui là pour le coup serait un modèle inégalitaire assez inédit dans l'histoire sur la longue durée. Et donc, j'essaierai de conclure par ce troisième point. Donc, je démarre tout de suite sur le premier point, sur le retour du capital. Donc, dans les manuels d'économie, alors qui n'est peut-être pas votre prose préférée, mais c'est toujours important ce qu'il y a décrit dans les manuels d'économie, surtout quand on y raconte beaucoup de bêtises, et en particulier, il y a cette idée que le rapport entre patrimoine et revenu, ou entre capital et production, ce qui est la même chose au niveau mondial, au niveau d'un pays pris isolément, le capital domestique installé sur le pays peut être différent du patrimoine si vous possédez une partie du capital d'autres pays. Mais au niveau de la planète dans son ensemble, on ne peut pas être possédé par la planète Mars. Et donc le ratio patrimoine-revenu et capital-production sont la même chose. Et dans les manuels d'économie, cette même chose qu'on peut noter bêta égale K sur Y est supposée être une constante. Alors, en fait, souvent, quand on ne sait pas grand-chose à propos de quelque chose, on dit que c'est une constante, parce que ça simplifie la vie. Mais en réalité, cette régularité ne repose, quand elle a été formulée dans les années 50-60, sur presque aucune donnée historique, sur quelques années de données. Donc, sur quelques années, tout est constant. Mais en réalité, si on regarde les choses dans la plus longue durée, on constate, notamment en Europe et au Japon, une très forte hausse de ce ratio bêta au cours des dernières décennies, qui en gros passait de bêta était égal à 200-300%, ce qui veut dire qu'on possédait en patrimoine de l'ordre de 2-3 années de revenus en moyenne dans les années 50-60, et on est aujourd'hui remonté à des niveaux qui sont plus de l'ordre de 500-600%, avec des variations entre pays qu'on va voir, mais il y a vraiment un mouvement général. Juste pour fixer les ordres de grandeur, le revenu national par habitant dans les pays riches aujourd'hui, ça va être de l'ordre de 30 000 euros par habitant. Donc si chacun avait le même revenu, chacun aurait 2500 euros par mois. Bon, alors, il y en a qui ont beaucoup moins, il y en a qui ont beaucoup plus, mais ce serait ça, le revenu national par habitant dans les pays riches aujourd'hui. Si vous avez un bêta de 6, ça veut dire que chacun, en moyenne, possède 6 fois 30 000 euros, donc 180 000 euros en patrimoine. Et en gros, actuellement, c'est à peu près la moitié de l'immobilier, la moitié du patrimoine financier. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas dans cette situation moyenne. Il y a beaucoup de gens vont posséder en patrimoine beaucoup moins que 6 années de revenus. Beaucoup vont avoir, je ne sais pas, un mois de salaire d'avance ou une semaine de salaire d'avance ou un patrimoine négatif si vous avez des dettes et pas d'actifs. Et puis d'autres personnes, à l'inverse, vont posséder beaucoup plus que 180 000 euros. Mais pour commencer, avant de s'intéresser à cette question de la répartition des patrimoines, bien comprendre ce que représente la masse des patrimoines par rapport aux revenus est une première indication de l'importance globale des patrimoines dans une société. Et en particulier, une société où la totalité de ce qu'il y a à posséder en patrimoine représente 6 années de revenus, c'est pas pareil qu'une société où ça prend que 2 années de revenus, comme dans les années 50-60. Donc ce mouvement de repatrimonialisation est un mouvement long. Et comme on va le voir dans une seconde, la question centrale, c'est vraiment celle-ci. C'est-à-dire, est-ce qu'on retourne vers des bêtas qui étaient encore plus élevés que 6, qui étaient de l'ordre de 6, 7, voire 8, dans des sociétés du 18e, 19e siècle, ou plus encore, d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous limite? Qu'est-ce qui fait qu'on est à tel ou tel niveau d'importance des patrimoines par rapport aux revenus? Donc, je montre tout de suite le résultat. Donc, sur la période récente, donc là, c'est l'évolution. Alors, c'est un tout petit peu illisible parce qu'il y a 8 pays en même temps, mais au moins, l'avantage, c'est que tout monte. Donc, on voit quand même que tout monte. On voit en particulier que si vous arriviez avec l'idée que c'est une constante historique, on aurait quand même bien du mal à expliquer ce qu'on voit. Donc là, on voit dans les 8 plus grandes économies développées du monde, le ratio entre patrimoine et revenu qui a été compris entre 2 et 3 années et demie de revenus en patrimoine en 1970 et qui est entre 4 et 7 à la fin de la période, donc en 2010. Donc il n'y a pas de doute qu'il y a une tendance générale à la hausse, alors avec en même temps énormément de chaos et de variations entre pays, que je ne vais pas pouvoir expliquer toutes les variations ici, mais vous voyez par exemple le Japon en 1990, donc ça clairement c'est une bulle immobilière et boursière, c'est-à-dire où les prix immobiliers et boursiers au Japon entre 85 et 90 augmentent, et ce n'est pas l'épargne qui va vous faire passer de 5 années de revenus en patrimoine à 7 années de revenus en patrimoine en 4 ans. Parce que même avec un taux d'épargne japonais, vous ne pouvez pas accumuler autant de patrimoine aussi vite. Et il faudrait épargner 50% de votre revenu chaque année pour augmenter en 4 ans de 2 années de revenus. Donc c'est juste pas possible. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'accumulation du capital, en général, sauf dans des bulles boursières immobilières, ça prend très longtemps. Parce que si vous épargnez 10% par an, pour avoir 5 années de revenus en patrimoine, il faut 50 ans. Donc c'est un processus historique très long, l'accumulation de capital. Mais dans le court terme, c'est vrai que des phénomènes de type bullesque, parce que c'est toujours très difficile de mettre un prix sur le capital, et donc ça part dans le décor régulièrement, comme vous avez sans doute remarqué, sont très importants. Mais au-delà de ces phénomènes de type bulle, il y a quand même des tendances de long terme qui vont au-delà de ces questions de bulle, et c'est ça que je voudrais essayer de mieux comprendre. Donc pour mieux comprendre ça, c'est important de remettre cette période des 40 dernières années, 1970-2010, dans une période beaucoup plus longue. Donc là, on a le cas du Royaume-Uni, qui est un des mieux documentés sur longue période, parce qu'il y avait au Royaume-Uni, au 18e, 19e siècle, beaucoup d'estimations de la fortune nationale, notamment de la valeur des terres agricoles, de la valeur des placements financiers placés à l'étranger. Et ce qu'on voit, donc là, vous voyez la période 1970-2010, qui est la hausse de la période précédente. Mais vous voyez que c'est très important pour la comprendre, cet épisode, de la mettre dans une perspective beaucoup plus longue, puisqu'on se rend compte qu'on a, sur les trois derniers siècles, un énorme choc au XXe siècle, avec une réduction énorme de la valeur des patrimoines au XXe siècle, et puis une remontée depuis 1950 qui semble grosso modo aller dans la direction d'un retour à des niveaux observés dans le passé. Alors ça ne veut pas dire qu'on va revenir exactement là, on peut rester en dessous, on peut aller au-dessus, il n'y a pas vraiment de raison qu'on aille exactement là. Mais ce qui est assez fascinant, disons, sur longue période, c'est de voir que le capital a complètement changé de nature, c'est-à-dire les terres agricoles ont disparu. Enfin, ont disparu, elles sont toujours là physiquement, mais leur valeur est très faible actuellement. Donc si vous voulez être riche, si vous possédez uniquement des terres agricoles, c'est pas une très bonne idée aujourd'hui. Donc les terres agricoles ont disparu, ce qui n'est pas très étonnant, parce que l'agriculture elle-même, qui représentait les deux tiers de la production, représente aujourd'hui 1 ou 2%, donc ce n'est pas étonnant que la valeur du capital correspondant ait évolué dans les mêmes proportions. Mais pour finir, les terres agricoles ont été remplacées par du capital immobilier, donc les logements. Donc aujourd'hui, les 5 ou 6 années de revenu national en patrimoine, c'est pour moitié des logements et pour moitié du autre capital intérieur. Ici, ça désigne le capital investi dans des entreprises et aussi les bâtiments publics utilisés par des administrations, comme ce bâtiment, par exemple. Alors, il y a aussi du capital immatériel. Hein, ça peut inclure les brevets, de la recherche et développement, enfin tout ce qui a été accumulé dans l'entreprise et dont la valeur est déterminée par pour ce qui est des sociétés privées, par la valeur de marché de ces sociétés. Donc ça inclut aussi beaucoup de formes de capital immatériel. Donc aujourd'hui, c'est grosso modo moitié-moitié capital logement et capital investi dans les entreprises. On voit que le capital étranger net, c'est-à-dire ce qu'on possède dans les autres pays, était très important la veille de la Première Guerre mondiale, hein, où le Royaume-Uni possédait l'équivalent de pratiquement deux années de revenus nationaux placés à l'étranger. Et en France, c'était un peu plus faible, c'était une année. Mais ce qui est quand même considérable, hein, donc on voit que la courbe pour la France est globalement très proche, sauf que le capital agricole met plus de temps à disparaître en pourcentage du capital national, parce que l'agriculture, la part de l'agriculture dans le produit national, la production nationale diminue plus lentement. Et on voit aussi que le poids des actifs étrangers atteint seulement une année de revenu national à la veille de la Première Guerre mondiale, ce qui est déjà très important. Aujourd'hui, on n'a aucun pays qui atteint autant, en tout cas dans les grands pays, même l'Allemagne et le Japon ont l'équivalent d'une demi-année de revenu national placé à l'étranger, ce qui déjà peut créer des tensions importantes au sein de l'Europe notamment. Mais bon, à l'époque, là, il s'agissait de masses de placements beaucoup plus importants en France et au Royaume-Uni. Bon, évidemment, ça s'accompagnait de rapports de domination politique avec une partie du reste du monde, donc c'est pas forcément rassurant comme point de comparaison. Mais c'est pour dire que, en tout cas, dans le cas de la France et le Royaume-Uni, ces placements étrangers ont disparu à la suite des guerres mondiales, en partie pour financer les guerres, hein, en partie, par exemple, les détenteurs britanniques d'actions ou d'obligations à l'étranger les ont vendus pour prêter à leur gouvernement et puis ensuite ont été noyés dans l'inflation, dans l'après-guerre. Donc pour finir, ont perdu une partie de ce qu'ils possédaient dans le reste du monde pour financer les guerres. Puis en partie, c'est aussi, dans le cas de la France, des expropriations, les emprunts russes ou... Bon, les actions du canal de Suez que Nasser nationalise en 1956, on voit qu'à ce moment-là, il n'y a plus grand-chose de toute façon à exproprier. C'est-à-dire que les actifs étrangers français et britanniques en 1956, c'est déjà terminé. Mais enfin bon, il reste toujours un petit bout. Donc il y a une partie qui est comme ça, qui est expropriée. Alors maintenant, au-delà de ces effets liés au choc des guerres, donc les chocs des guerres, c'est à la fois des destructions et c'est le financement des guerres. Hein, c'est-à-dire que l'Europe, entre 1914 et 1945, connaît des chocs d'une violence inouïe. On voit que les chocs du 18e, 19e siècle, en comparaison, y compris la Révolution française, se voient à peine sur ces estimations, alors qu'au 20e siècle, la violence inouïe des combats, des destructions, des mobilisations financières, des emprunts faits par les gouvernements pour financer ces guerres, fait qu'on a vraiment une chute brutale du stock de patrimoine après les guerres, qu'on met très longtemps à reconstituer pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est que pour accumuler 5 années de revenus en patrimoine, il faut très longtemps. Maintenant, si on veut réfléchir au niveau de bêta dans le très long terme, peut-être la façon la plus simple de le faire, c'est de regarder la formule suivante. Disons, dans le long terme, le patrimoine accumulé, alors ça ne vaut pas pour les ressources naturelles, mais le patrimoine qu'on peut accumuler à partir d'épargne et d'investissement, bêta, dans le long terme, il va être d'autant plus élevé que le taux d'épargne S est élevé, bon, ce qui n'est pas très étonnant, si on épargne plus, on va avoir plus de capital dans le long terme. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'aussi, il va être d'autant plus élevé que le taux de croissance G est faible. Alors là, le taux de croissance G dont je parle ici, c'est vraiment le taux de croissance total de la taille de l'économie, qui est la somme du taux de croissance de la population et de la productivité. C'est important d'être conscient du fait que la population, maintenant, a presque cessé de croître en Europe et au Japon, mais dans le monde dans son ensemble, et puis dans le passé au XXe siècle, mais encore dans le monde dans son ensemble aujourd'hui, la population augmente fortement. Donc aujourd'hui, quand on a un taux de croissance du PIB mondial de 3% par an ou de 3,2% en 2013, la moitié, c'est de la population, un peu plus de la moitié. Le taux de croissance du PIB mondial par habitant, c'est seulement 1,5%. Donc la croissance de la population, historiquement, c'est une partie très importante de la croissance économique totale. Et si vous épargnez 10%, enfin ce que dit cette formule bêta égale S sur G, c'est que si vous épargnez 10% par an et que votre taux de croissance est de 3%, alors, dans le long terme, vous allez accumuler l'équivalent de bêta égale 300% ou 333% exactement, c'est-à-dire de l'ordre de 3 années de revenus en patrimoine. Mais si jamais la croissance s'abaisse à 1,5%, ce qui est typiquement ce qui s'est produit en Europe et au Japon ces 30-40 dernières années, du fait que la croissance de la population est tombée à zéro, et une bonne partie de la différence avec les États-Unis, c'est cet effet population. C'est-à-dire que les États-Unis, on s'étonne du taux de croissance américain qui va être plutôt de 2,5%, voire 3%, alors que l'Europe va être à 1,5%. Bon, mais l'essentiel de l'écart entre les deux, c'est que les États-Unis ont une population qui augmente de 1% ou 1,5% par an et l'Europe de 0. Donc c'est aussi simple que ça. Mais dans le long terme, ça a un impact énorme sur le degré de patrimonialisation de la société. C'est-à-dire que dans une société de croissance lente, comme je le disais tout à l'heure, les patrimoines accumulés dans le passé prennent naturellement une très grande importance. Donc le retour du capital, c'est d'abord la conséquence d'un affaissement de la croissance, et notamment de la croissance de la population. Donc il y a quelque chose là-dedans qui est en partie naturel. Alors après, il y a toutes sortes de diversités nationales, de politiques publiques qui peuvent avoir un effet, etc. Mais ce schéma d'ensemble de reconstitution des patrimoines après les guerres et de patrimonialisation croissante à mesure que la croissance s'abaisse, il y a quelque chose d'absolument... inévitable là-dedans et qui n'est pas en soi, d'ailleurs, négatif. Avant que j'en arrive aux conclusions sur la répartition, peut-être un point important, parce qu'il y a deux notions qui sont souvent mélangées dans le débat économique et dans le débat citoyen aussi sur ces questions, qui sont... la question centrale, une des questions centrales est la suivante. La hausse du ratio capital-revenu bêta conduit-elle également à une hausse de la part du capital, qu'on note souvent alpha, dans le revenu national ? Alors, je vais juste m'attarder une seconde sur ces deux notions qui sont importantes. Donc, bêta, c'est le rapport entre la valeur de tout ce que vous possédez et une année de revenu. Donc, par exemple, si votre revenu, c'est 30 000 euros par an, vous possédez 180 000 euros, bêta égale 6. Bon, d'accord. Alpha, c'est dans la totalité des revenus d'un pays, quelle est la part qui correspond à des revenus du capital ? Donc, loyer, intérêt, dividendes, profit, plus-value. Alors, le rapport entre les deux est assez simple. C'est-à-dire que si le stock de capital représente 6 années de revenus et que le rendement moyen du capital, donc c'est ça la notion manquante, c'est le rendement du capital, est de 5% par an, alors, par définition, ça veut dire que la part des revenus du capital va être de 30% dans le revenu national. C'est simplement une définition. Il y a pas de, c'est évident que si, en moyenne, les loyers, intérêts, profits rapportent 5% par rapport à la valeur... Donc ça peut être vrai pour des très gros patrimoines, mais aussi pour des petits patrimoines. J'ai un chiffre sur le fait que le patrimoine concerne tout le monde, bon, que vous soyez locataire ou propriétaire. Donc je ne sais pas, si vous avez un appartement qui vaut 100 000 euros et que vous le louez 200, 300 euros par mois, mettons 3 000, 4 000 euros dans l'année, le rendement est de 3%, 4%, puisque sa valeur locative est de 3000, 4000 par rapport à une valeur de 100 000. Bon, puis si vous avez un appartement 5 fois plus gros, multipliez tout par 5, mais vous verrez que le type de rendement du patrimoine que vous obtiendrez en termes de valeur locative va être de l'ordre de 3-4%. Bon, parfois, il y a des plus-values qui s'ajoutent à ça sur un placement immobilier. Des placements en actions plus risqués vont rapporter 6-7% par an sur le long terme. Bon, mettons qu'en moyenne, on a un rendement de l'ordre de 5%. Si bêta égale 6 et que le rendement moyen est de 5%, la part du capital dans le revenu est de 30%. D'accord ? Donc ces deux notions, bêta et alpha, sont reliées de façon très simple, je crois. Et c'est important de bien distinguer ces notions, parce que des fois, il y a une confusion totale entre la valeur du stock de patrimoine, d'une part, et le niveau du flux de revenus du capital, d'autre part. Donc maintenant, techniquement, est-ce qu'une hausse de bêta, donc reprenons la question, est-ce qu'une hausse de bêta conduit forcément à une hausse de alpha ? Bon, techniquement, pour prendre la réponse technique donnée par les économistes à cette question, tout dépend de ce qu'on appelle l'élasticité de substitution entre capital et travail dans ce que les économistes appellent la fonction de production Y égale F de KL, où on produit de la production Y à partir de capital K, de travail L. Alors, cette fonction de production, c'est censé être une représentation mathématique synthétique de tout le processus de production. Donc, évidemment, c'est pas facile de résumer toute l'économie d'un pays avec une seule fonction comme ça. Alors, les économistes, comme toujours, aiment bien les hypothèses simples, et en particulier l'hypothèse standard qui a eu cours historiquement, c'est l'hypothèse d'une fonction de production dite Cobb-Douglas, qui correspond à une élasticité de substitution exactement égale à 1. Donc en langage clair, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand vous avez plus de stocks de patrimoine, bon, le rendement, évidemment, du patrimoine va diminuer. Ça, c'est toujours. Hein, quand vous avez plus de capital, le rendement diminue. Si vous construisez des immeubles jusqu'au ciel, il y a un moment où tout le monde va avoir 200 mètres carrés par personne, donc la valeur locative d'un immeuble supplémentaire va être très, très faible, parce que les gens n'ont plus besoin. Donc quand vous avez du capital à ne plus savoir qu'en faire, le rendement, forcément, s'abaisse. La question, c'est dans quelle proportion s'abaisse-t-il ? Et la fonction de production Cobb-Douglas, elle a une propriété très particulière, qui est que quand le stock bêta augmente, le rendement R diminue exactement dans les mêmes proportions que bêta. Donc si bêta augmente de 1%, hop, R diminue de 1%. Donc le produit des deux, qui est alpha, la part du capital en revenu associé, reste exactement le même, comme par enchantement. Donc si vous voulez, c'est une hypothèse mathématique qui correspond à un monde relativement apaisé, dans le sens où la part du capital est toujours la même. Donc, vous ayez énormément de capital, le rendement va diminuer exactement de façon telle que la part... Alors, sauf que... Bon, c'est un monde très apaisé, le partage est entièrement déterminé par la technologie, sauf qu'il n'y a aucune raison, en vérité, que ce soit comme ça. C'est-à-dire que c'est une hypothèse mathématique parmi d'autres, mais y compris dans le modèle le plus standard, avec des marchés parfaitement parfaits, parfaitement purs et parfaitement concurrentiels et tout ce que vous voulez, il n'y a aucune raison que ce soit la seule valeur possible pour l'élasticité de substitution. Et concrètement, il suffit que sigma soit un peu supérieur à 1 pour que le rendement du capital diminue, mais diminue moins fortement que le volume bêta, si bien que le produit des deux augmente, qui est exactement ce qu'on observe depuis les années 70-80, c'est-à-dire que non seulement le ratio bêta a augmenté, mais la part du capital a augmenté. Donc vous voyez l'évolution de la part du capital dans les pays riches, enfin dans les mêmes pays qu'on a vus tout à l'heure, qui passe, bon, les revenus du capital représentaient entre 15-25% du revenu national. Donc c'est le revenu du capital net de la dépréciation, hein, qui est le vrai revenu du capital qui est le plus important. Et ça représente entre 15 et 25% du revenu national dans les années 70 et entre 25 et 35% dans les années 2000-2010. Et ça pourrait continuer comme ça. C'est-à-dire, ce que dit cette théorie très simple, c'est qu'à partir du moment où vous accumulez plus de capital et qu'il y a beaucoup d'usages possibles pour le capital, la part du capital en revenu national peut parfaitement augmenter, y compris sans aucune imperfection, entre guillemets, en termes dans le langage des économistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de supposer qu'il y ait un pouvoir de négociation particulièrement élevé des détenteurs de capital. Alors si en plus il y a un pouvoir de négociation particulièrement élevé, ça peut s'aggraver. Mais il n'y a pas besoin de ça, même dans un monde parfaitement concurrentiel. J'insiste là-dessus, parce que souvent la solution des économistes à tous les problèmes du monde, c'est plus de concurrence et des marchés plus avec une concurrence plus pure et plus parfaite va toujours tout régler. Voilà, je me souviens de l'actuel président de la Banque Centrale Européenne, quand il a été nommé, on lui disait, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes de l'Europe ? Et il disait, il faut combattre les rentes. Personne ne savait très bien ce qu'il voulait dire. Sans doute, il voulait plus de concurrence dans le secteur des taxis, de la coiffure, tout ça, bon, ce qui est sans doute une chose très utile. Mais ce problème de plus de concurrence ne règle pas du tout la possibilité que la quantité de capital augmente, la part du capital en revenu national augmente. Et c'est un problème d'une autre nature et qui est d'une certaine façon beaucoup plus grave que simplement un problème de politique de la concurrence. Donc, pour résumer sur cette première partie, disons, avec une forte progression de bêta, donc du volume de capital, on peut obtenir une hausse de la part des revenus du capital dès lors qu'on a une fonction de production qui est à peine plus substituable que dans les hypothèses standards. Or, moi, il me semble tout à fait naturel, et c'est cohérent avec ce qu'on observe historiquement, de s'attendre à ce que l'élasticité de substitution sigma augmente au cours de l'histoire du fait simplement d'usage de plus en plus diversifié du capital. Donc le cas extrême serait une économie complètement robotisée où on peut remplacer chaque fonction humaine par du capital. Donc ça, dans le langage mathématique des économistes, serait sigma égale l'infini. Bon, on n'a pas forcément besoin d'en arriver là. Juste sigma égale 1,5 au lieu de 1, ça produit déjà des conséquences très inquiétantes. Donc la chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer grand-chose dans les hypothèses standards du modèle économique de croissance pour que tout parte dans le décor assez radicalement, hein, en termes de part du capital dans le revenu total. Or, un cas moins extrême mais tout à fait réaliste, est qu'aujourd'hui, il existe de nombreux usages possibles pour le capital. Vous pouvez remplacer les caissières par des machines. Vous avez lu, comme moi, je pense il y a quelques semaines, que Amazon veut remplacer ses livreurs par des drones, qui est un usage, un cas un peu extrême, mais intéressant de capitalisation extrême du processus de production. Hein. Donc ce n'est pas l'économie complètement robotisée, mais c'est quand même une utilisation de capital plus forte et qui peut tout à fait conduire à ce que la part du capital augmente continuellement. Et il n'y a aucun mécanisme correctif naturel pour ça. Hein. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est quelque chose qui peut se produire de façon parfaitement naturelle. Ça peut d'ailleurs être une bonne chose. Hein. J'insiste sur le fait qu'en soi, la hausse de bêta et alpha... Si vous avez des machines qui font toutes les tâches pénibles, parce que bon, d'après ce qu'on lit, les tâches humaines à faire dans les hangars de Amazon ne sont pas particulièrement sympathiques non plus. Donc les personnes sont déjà presque des robots, donc tant qu'à faire, ça peut pas forcément une mauvaise chose de mettre des robots. Bon, à condition évidemment que chacun ait autre chose à faire. Et dans l'absolu, ça pourrait permettre à chacun de se consacrer à la culture, à l'éducation, à la santé, et non pas à faire de la manutention ou à s'intéresser à sa propre subsistance. À condition que chacun trouve la formation et l'emploi adéquat dans cette situation, et puis à condition aussi de répondre à la question suivante, qui possède les robots et qui possède le stock de capital à qui une part croissante du revenu national se dirige. Donc ça nous amène à la deuxième question dont je voudrais parler dans cette présentation, concernant la concentration, l'inégalité du capital. Moi, je suis content de m'interrompre pour répondre à la question maintenant, mais je suis pas sûr que c'est ce qui était prévu. Peut-être on reviendra tout à l'heure, je m'adapte volontiers. Donc, deuxième point dans cette présentation qui concerne la concentration du capital. J'ai uniquement parlé pour l'instant de la masse de ce qu'on possède dans un pays. Bon, à la limite, si tout le monde possédait exactement la même quantité, 30 000 euros de revenus par tête, 180 000 euros de revenus par tête, chacun possède les drones d'Amazon en partie, c'est pas très grave, après tout, tout va très bien. Le problème, c'est que la concentration du capital est toujours extrêmement élevée. Alors, elle était encore plus élevée au XVIIIe, XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale qu'aujourd'hui, mais elle reste extrêmement forte. Hein. Donc, pour avoir quelques ordres de grandeur, les 10% qui possèdent le plus de patrimoine... Donc le décile supérieur de la répartition des patrimoines possédait jusqu'à 90% du capital total il y a un siècle, en possède aujourd'hui 60-70%. 60% mettons en Europe continentale, plutôt 70% au Royaume-Uni, aux États-Unis. Donc c'est un peu moins concentré qu'il y a un siècle, mais c'est quand même extrêmement, extrêmement concentré. Alors quand même, la différence par rapport à il y a un siècle, c'est qu'aujourd'hui, les 50% les plus pauvres, ils ne possèdent toujours presque rien, moins de 5% du patrimoine total, mais on a les 40% du milieu, c'est-à-dire les gens qui sont ni la moitié la plus pauvre, ni les 10% les plus riches, qui détiennent maintenant 20-30% du capital national, qui vont être typiquement des personnes qui vont détenir autour du capital moyen, donc 100 000, 200 000, 300 000 euros. Donc vous voyez qu'avec ce type de patrimoine, vous n'êtes pas très très riche, mais vous n'êtes pas non plus complètement pauvre, et souvent vous n'aimez pas d'ailleurs être traité comme un pauvre complet politiquement. Donc c'est une transformation du paysage économique, mais aussi social, politique, considérable que cette relative déconcentration du patrimoine. Donc qui reste, c'est toujours le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'à la fois le patrimoine reste aujourd'hui beaucoup plus concentré que les revenus, donc juste pour les salaires, les 10% des salariés les mieux payés vont avoir... même après l'augmentation des salaires des dirigeants des 20 dernières années, vont avoir jamais plus de 30% de la masse salariale totale, 25-30%. Donc le patrimoine, c'est toujours au moins deux fois plus concentré que les salaires, 60%. Mais simplement, il y a un siècle, c'est trois fois plus. Donc tout est une question de degré. Maintenant, la vraie question pour l'avenir, c'est est-ce que cette relative diffusion du patrimoine va se poursuivre ? C'est-à-dire, est-ce que la classe moyenne patrimoniale va s'étendre ? Plus de personnes deviennent propriétaires et accumulent du patrimoine ? Ou est-ce qu'au contraire, ça va plutôt se rétrécir et la reconcentration va se faire par l'eau ? Alors, une façon d'y répondre... Alors, j'ai évidemment pas de prévision à faire pour 2030-2040. Tout ce qu'on peut essayer d'apprendre, c'est comment les choses se sont passées dans le passé, comment cette diffusion s'est produite. Quelles en sont les raisons? Est-on bien sûr qu'elles soient irréversibles? Donc, peut-être une façon Je vais accélérer un petit peu pour ne pas être trop long. Une façon intéressante de poser la question, c'est de revenir en arrière sur le cas de la France, qui a le mérite... Donc là, ce sont des données qu'on a collectées avec Gilles Postelvinet, Jean-Laurent Rosenthal, dans les archives successorales françaises, qui ont le mérite d'être extrêmement riches. Hein. Donc la Révolution française n'a pas créé une société parfaite, ça se saurait, mais au moins elle a créé un observatoire des fortunes incomparable, c'est-à-dire qu'on peut... dans les archives successorales françaises, remontées au tout début du XIXe siècle, et avec un enregistrement des successions, donations extrêmement précoce en France qu'on n'a pas ailleurs. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il faut attendre 1916 pour avoir la création d'un impôt fédéral sur les successions, qui en France est créé en 1791. Donc on a un siècle de plus de données. Au Royaume-Uni, il n'y a pas de données homogènes sur les héritages avant les années 1890, 1895, 1896. Donc on a en France, on a un siècle de plus de données, ce qui est intéressant parce que ça permet de mettre en perspective historique les chocs du XXe siècle et ça permet notamment de se rendre compte de deux choses. D'abord, avant les guerres mondiales, il n'y avait pas de tendance naturelle à la déconcentration des patrimoines. Et même, c'est plutôt le contraire, parce qu'on était plutôt dans une spirale. Ouais, jusqu'aux années 1910, on a une concentration croissante des patrimoines. Alors, personne ne sait ce qui serait passé sans les guerres, mais certains, Lénine ou d'autres, voyaient même dans l'intensité capitalistique de la Belle Époque une des sources de la guerre, dans le sens où les capitalistes de différents pays se disputaient les débouchés extérieurs, etc. Et c'était sans doute une partie de l'affaire. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la courbe d'évolution de l'inégalité des patrimoines jusqu'à la Première Guerre mondiale ne manifeste aucune tendance à la baisse. Et c'est uniquement les chocs du XXe siècle qui semblent avoir changé l'évolution et avoir conduit à une certaine déconcentration du patrimoine. Alors après les chocs liés aux guerres, il y a eu des institutions publiques qui sont mises en place, d'État-providence, de fiscalité, d'impôts progressifs, qui ont sans doute contribué à ce qu'on ne revienne pas au point de départ initial. Alors sur la fin de la période, les données perdent en précision et il est possible, compte tenu en particulier de l'internationalisation des patrimoines, que l'évolution à la hausse de l'inégalité des patrimoines soit un peu plus forte que ce qu'on a ici. Il faut bien voir qu'il y a peu de chances qu'on soit revenu au début du XXe siècle, tout simplement parce que la répartition en vigueur au début du XXe siècle ne laissait à peu près aucun patrimoine, à part pour une toute petite minorité de la population. Les 10% les plus élevés avaient de l'ordre de 90%. Et ce qu'on voit ici sur cette courbe, c'est qu'à Paris, les 1% les plus élevés, donc le centile supérieur, c'est les 1% les plus élevés, avaient 70% du patrimoine au décès, et aussi, si on prend les vivants dans l'ensemble, 70% du patrimoine des vivants était détenu par les 1% les plus riches en patrimoine. Donc c'est quand même assez fascinant de voir qu'à l'époque, une bonne partie des élites politiques, financières, et notamment des économistes de la Troisième République, décrivaient la France comme un pays de petits propriétaires. Ils disaient, voilà, la France... On n'a pas besoin d'impôts progressifs sur les successions parce que, comme on a fait la Révolution française, les terres sont plus également réparties qu'ailleurs. Bon, en fait, les terres ne comptent plus du tout en 1910. On l'a vu, c'est les patrimoines immobiliers financiers qui est important. Donc, on n'a aucun rapport. Mais l'argument qui est fait, c'est aussi dire comme on a créé l'égalité face au code civil, l'égalité face au droit de propriété, l'égalité face au marché, finalement, ça suffit pour conduire à l'égalité tout court. Donc, on a Paul Leroy-Beaulieu, grand professeur au Collège de France de l'époque, qui explique que l'impôt progressif, c'est bon pour les Britanniques et leur société de classe, mais que nous, en République, on n'a pas besoin d'impôt progressif ni sur les successions, ni sur le revenu, ni sur quoi que ce soit. Bon, ça donne quand même une idée. C'est intéressant de relire cette période, parce que ça donne une idée d'abord du degré de mauvaise foi qu'on peut parfois atteindre, y compris en sciences sociales, enfin, en tout cas, personne se présentant comme tel. En l'occurrence, les données successorales déjà à l'époque auraient permis de montrer qu'en fait la France de l'époque est tout aussi concentrée en termes de patrimoine que le Royaume-Uni de la même époque. On a des niveaux très comparables. Donc, visiblement, la nature du régime politique, monarchie ou république, n'a que peu d'effet sur les déterminants fondamentaux de la concentration des fortunes. Je vais passer sur les autres pays européens pour lesquels les données sont imparfaites par rapport aux données françaises, mais donnent la même évolution d'ensemble, c'est-à-dire une immense concentration des patrimoines jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et maintenant, poser la question de suivante. Donc, résultat central, aucune tendance à la déconcentration du patrimoine avant les chocs entraînés par les guerres mondiales. Donc, dans une large mesure, ce sont vraiment les guerres au XXe siècle qui ont fait table rase du passé et qui ont modifié assez violemment la répartition. En dehors de ces chocs, quelles sont les forces qui déterminent le niveau de long terme de concentration du patrimoine ? Alors, bon, il y a évidemment beaucoup de forces, mais le point sur lequel je voudrais insister ici, c'est que dans n'importe quel modèle théorique d'accumulation du patrimoine, L'inégalité du capital dans le long terme va être une fonction croissante de cet écart R-G, où R est le rendement net du capital et G est le taux de croissance. Et intuitivement, c'est assez évident, c'est-à-dire que quand vous avez un rendement du capital, mettons, de 4, 5, 6% par an et un taux de croissance de seulement 1% par an, ça veut dire que les patrimoines déjà constitués dans le passé se recapitalisent tout seuls très vite. Alors, ça ne veut pas dire que les inégalités s'accroissent sans limite, parce qu'il y a toujours un moment dans une trajectoire d'accumulation où il vous arrive un choc, vous faites faillite ou vous avez un descendant qui se met à dilapider l'héritage. Enfin, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la vie d'une famille ou de la vie d'un individu donné qui fait que les choses ne vont pas comme prévu et donc que les inégalités, la croissance de la concentration des patrimoines ne va pas jusqu'au ciel. Elle s'arrête à un point. Mais quand R-G est élevé, ce point peut être très très élevé. C'est-à-dire que le niveau de concentration des patrimoines auquel conduit naturellement un monde où R est de 4-5% et G est de 1% est beaucoup plus élevé qu'un monde où la croissance est de 2 ou 3 ou 4%. Donc en soi, l'abaissement de la croissance et la montée du rendement du capital est une force puissante qui conduit à une concentration croissante des patrimoines. Et à nouveau, des petits écarts peuvent créer des énormes effets à long terme dont on n'a pas idée. Et sous des hypothèses relativement plausibles, la concentration du capital pourrait tout à fait retrouver, dépasser les niveaux du XIXe siècle. Donc je vais aller assez vite là-dessus, mais disons, historiquement, le rendement du capital au XXe siècle a été plus bas que le taux de croissance, essentiellement du fait des chocs, des pertes en capital, des impôts créés à la suite des guerres. Avant impôts, le rendement du capital a toujours été plus élevé que le taux de croissance. C'est uniquement après impôts qu'il est tombé en dessous du taux de croissance. Si on suppose que la croissance s'abaisse à l'avenir et que le rendement du capital net d'impôts réaugmente du fait d'une concurrence croissante, alors l'écart entre le rendement du capital et le taux de croissance pourrait retrouver à l'avenir les niveaux qu'on observait au XIXe siècle ou dans les siècles passés. Je peux revenir plus longtemps sur ce graphique dans la discussion tout à l'heure si vous voulez. À ce stade, je voudrais juste dire que si on regarde une source statistique tout à fait douteuse qui sont les classements de fortune publiés par le magazine Forbes, mais qui ont au moins le mérite d'exister, hein, je pense qu'on vit à une époque où malheureusement les gens préféraient lire Eurostat ou l'INSEE pour connaître ce qui arrive en haut de la répartition des patrimoines, mais comme les instituts publics ne répondent pas à cette question, la nature ayant horreur du vide, les gens achètent des magazines. Alors, ces classements des magazines sont biaisés dans toutes sortes de directions, en particulier, ils sont souvent un hymne sans limite à la fortune entrepreneuriale méritée, et sans doute sous-estiment-ils l'importance des patrimoines hérités dans leur classement. Mais qu'importe, ici, je veux juste dire que ce qu'indiquent ces classements... Là, je prends la période 87-2013, parce que c'est simplement en 1987 que Forbes a commencé à publier ses classements mondiaux de milliardaires. Et je calcule, donc 6,4-6,8%, c'est le taux de croissance annuel réel moyen, donc au-dessus de l'inflation, des plus hauts patrimoines mondiaux, alors en prenant une part croissante de la population mondiale. Parce que, bon, comme la population mondiale augmente, si vous regardez simplement les 100 plus riches ou les 200 plus riches, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais il faut regarder par rapport à la population mondiale. Et il faut comparer ça, évidemment, au taux de croissance de l'économie mondiale. Parce qu'après tout, le fait que les milliardaires s'enrichissent si l'économie mondiale s'étend, il n'y a rien de très anormal là-dedans. Sauf que là, ils s'enrichissent trois fois plus vite que la taille de l'économie mondiale. C'est-à-dire que donc, le PIB mondial sur cette période a augmenté de 3,3%. Comme je le disais tout à l'heure, plus de la moitié, c'est en fait la croissance de la population. Hein, la population adulte, en particulier, du fait du vieillissement de la population, a augmenté de 1,9% dans le monde. Donc en fait, le revenu par habitant n'a augmenté que de 1,4%. Hein, malgré la Chine, malgré tout, vous avez une croissance qui est positive, mais qui est faible, hein, qui est 1,4%. Le patrimoine moyen au niveau mondial a augmenté un peu plus vite, 2,1%. Ça correspond à l'augmentation du bêta, du ratio patrimoine-revenu, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais on voit bien que malgré cette... Donc, pour résumer, les revenus croissent à 1,4% par an, les patrimoines croissent à 2,1% par an, mais le haut de la répartition croît à 6-7% par an. Donc, si on en croit les données de Forbes, mais qui semblent se retrouver dans les magazines des autres pays qui font ce type de classement. Ça ne peut pas se poursuivre indéfiniment, dans le sens où ça veut dire qu'on est dans une phase où la concentration des patrimoines augmente par le haut, et que le haut de la répartition augmente sa part dans le total. Il faut bien que ce soit au détriment de quelqu'un, puisque les plus pauvres ne possèdent pas grand-chose. C'est forcément la classe moyenne patrimoniale qui perd petit à petit sa part du patrimoine total. Jusqu'où ça va aller, on n'en sait rien, parce que ces classements... Bon, le problème de ces classements, c'est que les milliardaires, dans le fond, on s'en fout un petit peu, parce qu'il y en a tellement peu que... leur part dans le total, dans le patrimoine mondial total, je le calcule dans le livre, c'est passé de 0,5% à 1,5%. Il faudra attendre 2030 ou 2040 pour que ça devienne vraiment très significatif. Bon, ceci dit, on peut aussi le regarder, s'intéresser aux choses à l'avance. Mais le vrai enjeu aujourd'hui, c'est plutôt que se passe-t-il au niveau des gens qui possèdent 10 millions d'euros, 100 millions d'euros. Parce que là, il y a beaucoup plus de monde et ça brasse une part du patrimoine mondial beaucoup plus significative qu'au-delà de 1 milliard. Bon, il y a des chances que ça augmente un peu moins vite que ce qu'on a là, peut-être 4, 5% par an. On ne sait pas très bien, en vérité. Et pour moi, la première raison pour laquelle on a besoin d'un registre mondial des patrimoines et d'échanges automatiques d'informations permettant de savoir qui possède quoi, qui a telle participation dans quelle entreprise, c'est justement de produire de la connaissance démocratique et de la transparence financière sur les patrimoines. Parce que le premier objectif de l'impôt, avant même de taxer, c'est de savoir ce qu'il y a à taxer et de produire de la connaissance et que les gens puissent avoir d'autres sources d'informations sur les patrimoines que d'acheter des magazines fort sympathiques, mais néanmoins très douteux dans leur méthode et leurs sources. Dernier point sur lequel très bien, 10 minutes, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc concernant ce que j'appelle ici l'inégalité en Amérique, alors c'est vrai que là j'ai beaucoup parlé des inégalités patrimoniales, qui sont la structure fondamentale des inégalités historiquement, et qui je pense pour l'avenir sont aussi sans doute l'aspect le plus préoccupant du problème. En même temps, il y a d'autres types d'inégalités, notamment face aux revenus du travail. Et de ce point de vue-là, l'étude du cas américain est intéressante parce que, disons, pour résumer les choses rapidement, l'inégalité en Amérique, historiquement, n'a pas la même structure qu'en Europe. On a un modèle qui est plus égalitaire par certains aspects, avec, dans une certaine mesure, moins d'importance pour les patrimoines, et en particulier les patrimoines hérités, qu'en Europe, et plus inégalitaire par d'autres aspects. Alors ça a toujours été comme ça. Hein. Au XIXe siècle, la vraie question en termes d'inégalité aux États-Unis, et dans une certaine mesure encore un peu aujourd'hui, c'est évidemment la question de l'esclavage. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le contraste aux États-Unis au XIXe siècle entre cette perte d'opportunités où le capital accumulé dans le passé compte beaucoup moins qu'en Europe, notamment du fait que on n'a pas eu le temps d'accumuler énormément de patrimoine, les nouveaux migrants ne sont pas arrivés avec un capital sur le dos, la croissance démographique perpétuelle réduit structurellement le niveau du patrimoine accumulé dans le passé et aussi de la concentration du capital. Et en même temps, les États-Unis, tout en étant cette terre d'opportunité, sont aussi la terre de l'esclavage. Et donc on a le contraste qu'on a encore d'une certaine mesure aujourd'hui entre les États-Unis qui sont par certains côtés un modèle moins inégalitaire que l'Europe, par certains côtés, un modèle encore plus inégalitaire, donc juste ce graphique pour résumer tout ça. On voit que dans le nord des États-Unis, le patrimoine compte très peu vers 1800, et en particulier la valeur des terres agricoles, c'est très intéressant de voir que la valeur des terres agricoles en noir est beaucoup plus faible aux États-Unis, d'ailleurs aussi bien dans le nord que dans le sud des États-Unis, par rapport à la vieille Europe. En gros, c'est d'ailleurs la première observation de Tocqueville en 1830, c'est de dire tout le monde peut devenir propriétaire agricole. La terre ne vaut rien. Le prix de l'hectare, de fait, ne vaut rien aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de terres en volume que le prix relatif de la terre est ridicule. C'est-à-dire que si vous avez un continent entier pour 1000 personnes, le prix relatif de la terre tombe à des niveaux très très bas. Donc chacun peut devenir propriétaire. Donc le fait de posséder les terres, ça ne vous donne pas un très gros avantage dans la vie. Et donc ça vous fait potentiellement une société, d'après Tocqueville, plus démocratique, plus égalitaire, parce que vous n'avez pas ces inégalités de patrimoine au-dessus. Et c'est vrai que le nord des États-Unis, c'est un peu ça. On a des répartitions de patrimoine au nord des États-Unis qui sont beaucoup plus égalitaires qu'en Europe jusqu'au début du XXe siècle, et une masse totale des patrimoines à posséder qui est plus faible qu'en Europe. Sauf qu'au sud des États-Unis, vous avez une autre réalité qui est que posséder la terre, ça ne vous rend pas très très riche, mais si vous avez la bonne idée de posséder aussi ceux qui travaillent la terre en même temps, pour finir, la valeur totale de ce qu'il y a à posséder est encore plus élevée que le capital agricole en Europe. Donc c'est une forme d'inégalité encore plus violente. Vous avez une partie de la population qui possède une autre partie de la population. Ces estimations de la valeur marchande du stock d'esclaves sont sans doute un peu sous-estimées pour l'époque. Là, j'ai simplement repris tous les travaux qui ont été faits par Robert Fogel et d'autres sur la valeur des esclaves, qui sont parfaitement répertoriés dans les déclarations de succession de l'époque, qui permettent, on peut calculer ça assez bien. Et c'est sans doute une borne inférieure. Enfin, dans tous les cas de figure, la valeur totale des esclaves représentait au moins l'équivalent et sans doute assez nettement plus que la valeur totale des terres agricoles. Et la somme des deux, finalement, était aussi importante. Donc les États-Unis, c'est à la fois le pays sans capital et puis le pays avec la forme la plus extrême de capital. Bon, il y a un livre récent très intéressant de David Graeber qui explique que l'esclavage, c'est simplement la forme extrême de la dette privée absolue. Puisque voilà, vous avez une partie de la population qui est infiniment endettée vis-à-vis de ses propriétaires pour les générations et générations à venir. Bon, là, c'est une réalité, ça structurait vraiment la forme de la propriété et des rapports sociaux et des rapports de domination qui vont avec de façon tout à fait extrême. Bon, tout ça, c'est le passé, mais néanmoins, ce qui est assez frappant toujours dans le cas américain, c'est qu'il y a toujours ce contraste d'extrême, quoi, d'extrême égalitaire, d'extrême inégalitaire. En particulier, la répartition américaine des revenus est devenue, pour finir, plus inégalitaire qu'en Europe au cours du XXe siècle, y compris après l'abolition de l'esclavage, etc. Elle est actuellement aussi inégalitaire que dans l'Europe de la Belle Époque, mais avec une structure de l'inégalité assez différente. C'est-à-dire que la concentration des patrimoines aujourd'hui en 1913... là j'ai écrit 1913, en fait je voulais dire 2013. Donc les États-Unis de 2013 ont une inégalité du capital qui est moins extrême que l'Europe de 1913, mais une inégalité beaucoup plus forte des revenus du travail. Donc si on regarde, ça c'est l'évolution de l'inégalité des patrimoines, on voit que les États-Unis sont devenus plus inégalitaires que l'Europe au cours du XXe siècle, mais il reste quand même aujourd'hui les 10% des Américains les plus riches vont posséder un peu plus de 70% du patrimoine total, ce qui est énorme, mais ce qui est moins que l'Europe en 1910, où c'était 90%. Donc il y a quand même, il y a toujours eu aux États-Unis une certaine classe moyenne, enfin en tout cas il y a une concentration des patrimoines moins extrême qu'en Europe au XIXe siècle. Et en même temps, bien que l'inégalité des patrimoines aujourd'hui aux États-Unis soit moins forte qu'en Europe en 1910, on voit que l'inégalité des revenus a dépassé les niveaux les plus élevés qu'on a observé en Europe. Donc les États-Unis ont dépassé leur propre record des années 20, ont dépassé le niveau européen. Mais ça vient d'une autre structure des inégalités, c'est-à-dire que ça vient plutôt d'une très forte inégalité des revenus du travail, ce qui s'explique à la fois sans doute par une très forte concentration des moyens éducatifs, donc une partie de la population américaine qui a moins accès notamment à l'enseignement supérieur et bon, c'est pas que la France soit un modèle égalitaire dans ce domaine, mais l'inégalité de la répartition des moyens éducatifs aux États-Unis, en particulier sur le supérieur, est sans doute encore plus extrême. Bon, maintenant, cette question de l'éducation, ça suffit pas pour expliquer cette particularité de l'inégalité des revenus du travail aux États-Unis. Il y a aussi et surtout, sur la période récente, un envol des très hautes rémunérations, notamment des rémunérations de super cadres de très grandes entreprises américaines. Alors, pour certains, cet envol des revenus des super cadres, c'est quelque chose, finalement, c'est un modèle plus méritocratique d'inégalité, parce qu'au moins, ça permet l'enrichissement sans héritage. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on retrouve en France sous Napoléon, puis pendant tout le XIXe siècle, en termes de hiérarchie des salaires de la très haute fonction publique. C'est-à-dire qu'on voit en France les salaires des préfets au XIXe siècle, ou les salaires des directeurs d'administration centrale, ou d'ailleurs les salaires des professeurs d'université, qui à cette époque-là étaient très bien payés. On trouve au sommet de la hiérarchie des salaires de la fonction publique en France au XIXe siècle des salaires de 50 000 francs or, 100 000 francs or, à une époque où le salaire moyen était de 1 000 francs pour la société dans son ensemble et pour le garçon de bureau. Donc on a des écarts de 1 à 50 ou de 1 à 100 entre le directeur d'administration ou le professeur au Collège de France et le garçon de bureau du ministère. Et c'est assumé par la société française, enfin en tout cas par une partie de la société française. Bon, les inégalités sont toujours mieux assumées par les gagnants que par les perdants, évidemment, mais en tout cas, la société française l'assume, et Napoléon avait ses discours disant, voilà, je veux que mes préfets puissent vivre avec autant d'élégance et de dignité que les plus hauts notables du département où ils officient. Donc s'il y a une très forte inégalité des patrimoines qui fait que les plus riches en patrimoine vivent très bien avec 20-30 domestiques, il importe que mon préfet puisse vivre avec autant de dignité. Et donc c'est un peu cette course-poursuite entre les super patrimoines et les super cadres, d'une certaine façon. Et cette logique un peu extrême de course-poursuite entre le haut de la répartition des salaires et le haut de la répartition des patrimoines, je pense, est en cours actuellement aux États-Unis à une échelle beaucoup plus extrême que sous Napoléon et dans la haute fonction publique française, où c'était quand même limité à un tout petit groupe de personnes, alors que là, ça concerne l'ensemble du secteur privé aux États-Unis. Alors, le problème, c'est que ce supposé modèle hyper méritocratique ça peut vraiment être le pire des mondes pour tous ceux qui sont ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes ni super cadre ni super héritier, non seulement vous avez une part décroissante du revenu national, mais en plus, on vous décrit comme fondamentalement peu méritant, improductif. Et là, c'est là qu'on a un modèle inégalitaire qui peut vraiment être le pire des mondes, parce que au moins dans l'inégalité patrimoniale d'Ancien Régime ou d'ailleurs du 19e siècle, même si la croissance industrielle a généré toutes sortes de croyances dans le caractère d'un seul coup juste de l'inégalité, globalement, dans le système d'inégalité patrimoniale classique, personne ne prétend que le domestique d'un Jane Austen est moins méritant que le propriétaire. Bon, c'est juste que voilà, le domestique est domestique, le propriétaire est propriétaire. Quelle est la justification profonde ? C'est jamais complètement clair, mais on peut imaginer que dans une société pauvre, voilà, pour qu'il y ait au moins une petite partie de la population qui vive au nom de tous les autres et face de l'art, de la culture ou de la sociologie, il faut cette inégalité forte des patrimoines. Bon, je ne dis pas que l'excuse est parfaitement acceptable, mais au moins il n'y a pas de tentation de décrire celui qui est perdant du système comme fondamentalement méritant sa position. Là, ce qui je pense peut être assez terrible pour les perdants du système actuel, c'est qu'on invente dans les sociétés riches modernes des justifications pour les inégalités basées sur cette notion de mérite, qui est quand même pour l'essentiel une grande fumisterie. C'est-à-dire que si on essaye d'examiner l'évolution des salaires des cadres dirigeants aux États-Unis et qu'on essaye de l'expliquer avec un modèle basé sur la productivité ou le mérite ou la performance de chacun, on va vraiment pas très loin. C'est-à-dire que concrètement, les entreprises qui ont des dirigeants qui sont passés à plusieurs millions d'euros ne semblent absolument pas avoir une croissance plus forte que les autres ou une productivité plus forte que les autres. Donc, en pratique, si on regarde les données de près, je pense qu'on peut, dire que la hausse du pouvoir de négociation des cadres dirigeants et la baisse aussi des taux supérieurs d'imposition, notamment aux États-Unis, ont joué un rôle beaucoup plus important. Et je pense que cette histoire des très hauts salaires aux États-Unis, comme toujours sur cette question de revenus et de patrimoine, est beaucoup plus une histoire politique et une histoire des normes sociales autour des inégalités qu'une histoire simplement sur la productivité marginale, pour prendre le langage strictement économique, de tel ou tel cadre, qui est une notion qui peut vaguement avoir un sens pour des fonctions réplicables dans une entreprise, mais pour des fonctions, si vous êtes la productivité marginale d'un directeur financier dans une entreprise qui a 100 000 personnes, bon, qu'est-ce que vous allez faire pour la mesurer? Vous n'allez pas faire tourner l'entreprise sans directeur financier pendant 10 ans, voir ce que ça donne. De toute façon, l'environnement économique aura tellement changé que vous n'aurez rien appris entre-temps. Donc on est vraiment là dans une pure construction sociale avec des phénomènes de mimétisme et des pouvoirs de négociation des uns et des autres, donc concrètement des personnes qui ont eu de plus en plus de pouvoir à fixer leur propre rémunération, dans une société qui elle-même a transformé totalement sa vision des inégalités. Et je voudrais conclure par ça en rappelant cette évolution qui est maintenant bien connue, mais qu'il est toujours bon de rappeler, sur l'évolution spectaculaire du taux supérieur de l'impôt sur le revenu aux États-Unis et au Royaume-Uni au cours du siècle écoulé, ce qui permet de rappeler que l'histoire des attitudes par rapport aux inégalités est toujours une histoire imprévisible, chaotique, mouvementée. Et vous savez, à la veille de la Première Guerre mondiale, tout le monde disait l'impôt sur le revenu, c'est impossible, il ne faut pas le créer. Et de fait, c'était vraiment minuscule. Hein. Et puis d'un seul coup, au lendemain de la Première Guerre mondiale, vous voyez, même en France, on est passé à 50% de taux d'imposition en 1920, et la chambre qui a voté ça, c'est le Bloc national, qui est une des chambres les plus à droite de l'histoire de la République, qui est constituée de parlementaires qui, 10 ans avant, refusaient de voter l'impôt sur le revenu à 2%. Le taux en 1914 le plus élevé de l'impôt sur le revenu, c'était 2%. Et les mêmes parlementaires qui le refusaient encore en 1913 de voter à 2%, c'est eux qui le votent à 50% en 1920. Comme quoi, on ne fait pas toujours ce qu'on a prévu de faire quand on arrive au pouvoir par rapport à ce qu'on a dit avant les élections. Et en l'occurrence, entre les deux dates, évidemment, il s'est passé des chocs terribles. La Première Guerre mondiale, les finances publiques dans un état déplorable, les salaires qui n'ont toujours pas retrouvé leur pouvoir d'achat d'avant la guerre, la révolution bolchevique qui fait que, quand même, on s'est dit que finalement, l'impôt progressif sur le revenu, c'est une solution tout à fait douce par rapport à d'autres. Donc voilà, il y a plein de chocs, des transformations dans les perceptions qui font que les politiques ont changé. Et on voit que dans cette histoire mouvementée, les États-Unis et le Royaume-Uni sont vraiment les pays qui ont été le plus loin dans l'imposition progressive, voire confiscatoire des très hauts revenus. C'est-à-dire que les États-Unis, bon, c'est bien connu maintenant, mais il faut le rappeler, de 1930 à 1980, ont eu des taux d'imposition sur les plus hauts revenus de l'ordre de 80-90%. Ça n'a pas tué le capitalisme américain simplement parce que ça s'appliquait sur des revenus très très élevés. C'est-à-dire, il s'agissait, on ne taxait pas à 90% quelqu'un qui avait 3 ou 5 fois ou même 10 fois le revenu moyen. C'était vraiment sur des personnes qui seraient à l'équivalent aujourd'hui de 50 fois, qui seraient à, mettons, 1 million d'euros d'aujourd'hui. Enfin, des revenus vraiment très élevés. Et c'est très intéressant de voir qu'à cette époque-là, dans l'entre-deux-guerres, la grande frayeur aux États-Unis, c'était de ressembler à la vieille Europe hyper inégalitaire. Alors aujourd'hui, ça paraît complètement fou, mais c'était vraiment... On voyait ça très fortement aux États-Unis à l'époque, y compris chez les économistes américains, qui, au début des années 20, s'inquiètent beaucoup que la concentration des fortunes menace l'esprit démocratique américain et nous fasse ressembler à la vieille Europe. Bon, et puis dans les années 70, les Américains sont repartis dans la direction inverse avec la même vigueur qui caractérise ce grand pays que nous aimons tous. Et ils sont repartis, voilà, sous Reagan, le taux supérieur de l'impôt sur le revenu est tombé à 28%, ce qui a complètement changé le jeu de fixation des plus hautes rémunérations aux États-Unis. C'est-à-dire que quand vous n'avez que 28% ou 30, 40% de taux supérieur, vous avez vraiment intérêt à vous faire augmenter d'un million de dollars ou 10 millions de dollars et vous avez intérêt à bien composer le comité de rémunération, etc., en fonction. Quand vous êtes à 90% de taux d'imposition, franchement, ça vaut pas le coup. Et d'ailleurs, vos actionnaires, vos subordonnés vont vous faire remarquer que comme 90% va aux impôts directement, bon, vous allez peut-être rester plus raisonnable. Donc la norme fiscale finit par renforcer ou au contraire défaire les normes sociales. Donc il y a une interaction entre ces deux types de normes qui, je pense, est une grande partie de l'explication, qui est encore plus frappante sur l'impôt sur les successions. Hein, il faut rappeler que les États-Unis et le Royaume-Uni ont, par l'impôt sur les successions, redistribué les patrimoines d'une façon dont les guerres ont fait en France et en Allemagne. Donc on peut dire que la France et l'Allemagne ont eu les guerres, ont moins utilisé l'arme fiscale, qui a été vraiment un outil très fortement... on voit que le taux supérieur de l'impôt sur les successions a atteint 70-80%. C'est très intéressant de voir que le seul moment où il atteint 60%, vous voyez en Allemagne, là, en 45-48, c'est quand ce sont les Américains qui fixent la politique fiscale allemande à travers le Allied Control Council. Et c'est la même chose sur les revenus, hein, où ça atteint 90% en Allemagne en 45-48. C'est la même chose au Japon, où les mêmes années 45-48, il y a 90% sur les plus hauts revenus japonais. Et ce n'est pas pour punir les Allemands ou les Japonais, puisque les Américains font la même chose aux États-Unis. C'est au contraire, c'est pour leur apporter la civilisation, la démocratie, l'impôt confiscatoire, ça fait partie de la civilisation américaine. Et dès que les Allemands retrouvent leur souveraineté fiscale en 1949, ils redescendent, vous voyez, à 40 et même finalement 20% de taux supérieur de l'impôt sur les successions, parce que ça leur paraît, dans le contexte aussi de reconstruction de l'époque, où beaucoup de patrimoines ont été détruits, ça leur paraît plus adapté. Tout ça pour dire, et je conclue là, que l'histoire de la répartition des richesses est toujours profondément politique, imprévisible. Elle met en jeu des représentations collectives, des identités nationales, des retournements spectaculaires. Et moi, je prétends évidemment pas être capable de prédire les chocs de l'avenir. Bon, simplement, essayer de reprendre l'histoire de ces évolutions de façon aussi sereine que possible, je pense, permet de se focaliser pour la suite sur les bonnes questions. Si on cherche une conclusion générale à ce que je viens de dire là, c'est que mes conclusions sont peut-être moins apocalyptiques que celles de Marx, bon, ce qui ne met pas la barre très très haut, mais quand même. C'est-à-dire qu'avec une croissance faible... Une façon d'interpréter le modèle marxiste, mais qui n'utilise pas de mathématiques, donc c'est plus difficile d'interpréter parfois ce qu'il veut dire, une façon de l'interpréter, c'est qu'avec une croissance nulle de la population et de la productivité à long terme, tant que vous continuez d'épargner, la formule S divisée par G fait que bêta va tendre vers l'infini. Donc vous allez avoir une accumulation infinie de patrimoine, une baisse tendancielle du taux de profit, parce que si vous avez une accumulation infinie de patrimoine, le rendement tend vers zéro. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins tout ça va se terminer par une apocalypse générale et qu'un nouveau système économique va émerger. Bon, moi, mes conclusions sont à la fois moins apocalyptiques et puis, par certains côtés, plus inquiétantes parce qu'il n'y a pas d'issue économique. C'est-à-dire qu'avec un taux de croissance positif, il ne va pas y avoir de baisse tendancielle du taux de profit. L'accumulation du patrimoine va s'arrêter à un niveau fini, bêta. Simplement, ce niveau, cet état stationnaire peut être très sombre, dans le sens où le rapport capital-revenu et aussi la part du capital alpha dans l'ordre national peuvent être très élevés et on peut avoir une concentration très forte de ce capital, notamment du fait d'un R-G élevé. D'un point de vue strictement économique, ça ne pose aucun problème. Logique. Il n'y a pas d'effondrement à la sortie. Les choses peuvent continuer comme ça indéfiniment. Alors, d'un point de vue politique, c'est potentiellement plus embêtant, mais après, tout dépend de la capacité de l'appareil de persuasion des élites ou de l'appareil de répression dans certains cas qui permet de faire vivre ensemble tout ce petit monde avec ce type de répartition. La solution idéale serait un impôt progressif sur le capital au niveau mondial avec des échanges automatiques d'informations bancaires. Bon, après, il y a plein d'autres solutions plus ou moins décentralisées, disons, qui peuvent émerger, des contrôles de capitaux. En Chine, vous pouvez devenir très riche, mais si vous cherchez à déménager votre fortune, vous n'en êtes plus propriétaire. En Russie, vous en êtes toujours propriétaire, mais si vous voulez faire de la politique, vous vous retrouvez en prison, bon, ce qui est une autre façon de réguler les fortunes. Aux États-Unis, c'est un peu la croissance démographique perpétuelle qui rend les inégalités acceptables et aussi qui rend les inégalités patrimoniales moins fortes structurellement. Bon, en même temps, ce n'est pas une solution pour l'ensemble de la planète, parce qu'on ne va pas multiplier la population mondiale par 100 au cours des deux prochains siècles. Et voilà, une fois qu'on aura tous immigré aux États-Unis, comme mes sympathiques collègues économistes, bon, il faudra trouver autre chose, quoi. Donc, ça... Et voilà, donc voilà, l'impôt progressif sur le capital est la pire des solutions, à l'exception de toutes les autres. Et je vais m'arrêter là. Voilà.